Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pour ouvrir le bal, comme tous les jours, c'est vous, Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel de ce jeudi commence avec deux nouveaux locataires dans les Pyrénées.
Et oui, cette question, quel est le pire prédateur d'un ministre de l'écologie? Pas l'ours en tout cas. En revanche, François de Rugy a eu fort à faire aujourd'hui avec les éleveurs et les élus des Pyrénées opposés au retour de l'animal sur leur terre. Un geste pour les retraités, 200 000 de plus recevront une compensation pour la hausse de la CSG. Le gouvernement tend la main, un électorat qu'il est en train de perdre. Le couple malmené par Alexandre Benalla le 1er mai dernier n'était pas au Sénat hier comme le chargé de mission, mais dans le bureau des juges, les deux jeunes gens ont donné leur version des faits. On vous emmène aussi à Salzbourg pour un divorce qui se passe mal, toujours pas d'accord entre les Britanniques et les 27 pour le Brexit, et puis au Louvre pour une histoire d'amour qui dure cette fois depuis 4 siècles. Les époux de Rembrandt réunis et restaurés seront exposés 3 mois dans le musée parisien. On ressort la petite laine, le parapluie, la météo se gâte. Sébastien Léa se fera le point à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, et ce soir on parle d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien en grève de la faim depuis 130 jours aujourd'hui dans les prisons russes. 130 jours, son état de santé évidemment est plus que préoccupant. Un collectif d'artistes, d'intellectuels ici à Paris essaye de faire parler de cet homme en protestant chaque jour. Mais que dit la Russie de Poutine aussi? Est-ce que la mort du cinéaste indiffère intégralement le Kremlin? On en parle notamment avec Marie Desplechin qui a montré son soutien aussi cette semaine. Je vous emmène également sur le lac Titicaca ce soir, et puis à 19h20, le téléphone Funson, on va parler SharePoint, mur de post-it, table de ping-pong dans l'open space, escape game pour souder les équipes. L'entreprise cherche-t-elle vraiment le bien des salariés alors qu'elle devrait plutôt s'intéresser au sens et à l'efficacité du travail? Vous dialoguerez avec une philosophe spécialiste des ressources humaines et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
La vie sauvage d'un tout nouveau ministre.
François de Rugy a pu expérimenter aujourd'hui les périls de sa nouvelle fonction. Le ministre de la Transition écologique s'est rendu à Pau pour annoncer l'introduction de deux ours slovènes d'ici début octobre dans les Pyrénées occidentales. C'était un engagement de son prédécesseur Nicolas Hulot, une promesse aux ONG, aujourd'hui ravie. Mais les éleveurs locaux, eux, ne comptent pas rester doux comme des agneaux. Stéphanie Glésis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce premier déplacement du ministre de Rugy en terre hostile?
Oui, et la main de François de Rugy n'a pas tremblé. Le nouveau ministre de l'Environnement reconnaît que le dossier ours divise en Béarn. Ça, c'est un doux euphémisme. Mais il estime que les concertations ont eu lieu et que s'il fallait attendre en France que tout le monde soit d'accord, on ne ferait jamais rien. François de Rugy.
J'ai décidé de passer à l'action. Je connais les difficultés, les tensions, et donc je ne me dérobe pas. Nous considérons que la population d'ours dans les Pyrénées sera viable une fois cette réintroduction faite et si évidemment elle marche.
Une fois la réintroduction annoncée, 11 maires et un député PS ont donc claqué la porte de la réunion de concertation à la préfecture. Pour David Habib, député PS, le nouveau ministre de l'Environnement a juste voulu faire un coup politique.
Ils veulent démontrer que François de Rugy est capable d'aller plus loin que Nicolas Hulot. Ils veulent démontrer que Nicolas Hulot a eu tort de quitter le gouvernement et que La République En Marche, c'est les Verts plus. C'est un décalage profond entre le 7e arrondissement de Paris, incarné par le ministre et ses collaborateurs, et un territoire qui est fort de ses convictions.
Quant à Denis Fourcade, éleveur de brebis à Lourdios-Sichère, il ne comprend pas cette décision qui va rendre la vie plus difficile aux éleveurs.
Et autrefois, pour faire le même travail que moi je fais tout seul, ils étaient 3 ou 4 sur les fermes. Et à l'heure actuelle, on est tout seul, dont une conjointe qui travaille à l'extérieur, parce qu'économiquement c'est compliqué. C'est ça qui me fait peur. Alors c'est pas le fait de garder les brebis, vous pourriez y être jour et nuit, un jour ou l'autre vous vous faites avoir et vous vous faites attaquer. Ou il peut y avoir 4-5 patous, les brebis se font attaquer, malgré ça.
Reste désormais à capturer les deux ours femelles slovènes qui seront réintroduites en toute discrétion d'ici début octobre. Pour Stéphanie Glésis, France Inter.
Merci Stéphane. Il a tenté de calmer la colère. Lui aussi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce matin ici même que près de 300 000 retraités allaient bénéficier d'un coup de pouce fiscal pour compenser la hausse de la CSG. Au départ, seuls 100 000 devaient être compensés, mais le gouvernement fait un effort supplémentaire, 350 millions d'euros pour les finances publiques. Karine Bécard, vous nous avez rejoint. Alors, il y avait urgence à tendre la main aux retraités?
Manifestement, oui, parce qu'au-delà de l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le Premier ministre, au début de la semaine, déjà lundi précisément, le président avait lui-même réclamé, je cite, qu'on arrête d'emmerder les retraités. C'était au sujet des droits de succession. Christophe Castaner, le patron du parti de La République En Marche, venait de proposer de les réformer et Emmanuel Macron a immédiatement répondu qu'il n'en était pas question. Alors pourquoi? Pourquoi ce changement de pied à l'égard des retraités? Parce que l'exécutif s'est rendu compte qu'il était allé probablement un peu trop loin avec avec l'augmentation certes de la CSG, mais pas seulement, avec la désindexation également des pensions de retraite par rapport à l'inflation. Or, les seniors, eh bien, ce sont aussi des électeurs. Dans 10 ans, les plus de 65 ans représenteront à peu près, à eux seuls, un tiers de la population. Et à la dernière présidentielle, ils ont été nombreux, très nombreux, à voter au second tour pour Emmanuel Macron. Donc, à 9 mois des élections européennes, le président qui dévisse dans les sondages depuis le début de l'été est en train de reconsidérer, semble-t-il, la question des retraités.
Karine Bécard du service politique d'Inter, merci à vous. Est-elle folle ? Marine Le Pen va devoir subir une expertise psychiatrique ordonnée par la justice. La présidente du Rassemblement National devra répondre de son état mental, psychique, après avoir diffusé des photos insoutenables des terroristes du groupe État islamique. Hallucinant, a-t-elle réagi ? Sauf que la loi impose en fait une expertise médicale pour le délit de diffusion de messages violents. Un point de droit ignoré apparemment par l'avocate Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon aussi. Le patron de la France Insoumise apporte un surprenant soutien à la frontière. Il exprime son désaccord total sur Twitter.
Amélie, on n'avait pas encore entendu leur version.
Et pourtant, ils sont au cœur d'une affaire d'été ou une affaire d'État, selon les points de vue. Les deux jeunes gens molestés par Alexandre Benalla le 1er mai dernier, place de la Contrescarpe à Paris. Au moment où le chargé de mission d'Emmanuel Macron était entendu par la commission d'enquête sénatoriale hier, le couple, lui, était convoqué dans le bureau des trois juges parisiens chargés de l'enquête. Bonsoir Sophie Parmentier,
bonsoir.
Vous avez eu leur avocat et vous pouvez nous raconter cette audition sans caméra ni retransmission en direct celle-ci.
Cette audition dans le bureau des juges a duré 4 heures pour le jeune homme prénommé Georgios, un cuisinier de 29 ans. Sa compagne Chloé, 30 ans, graphiste, a ensuite été entendue durant 3 heures et tous deux ont expliqué au magistrat qu'ils voulaient juste fêter leurs 6 ans d'histoire d'amour en allant boire un verre et manger une crêpe ce soir du 1er mai quand ils se seraient retrouvés au cœur de la manifestation à un moment où elle a dégénéré, raconte leur avocat, maître Saoud Saber. Il est au micro de Marie Bernardo.
Ils ont reconnu avoir jeté des projectiles en réaction à une charge de CRS qui les a laissés dans l'incompréhension. Ils ont manifesté leurs regrets, ils ont présenté leurs excuses, ils ont qualifié leurs gestes de bêtes, de stupides, de sanguins. Et aujourd'hui encore, ils disent en avoir honte. Ils reconnaissent finalement qu'ils auraient dû quitter les lieux lorsqu'ils ont vu la manifestation, plutôt que de rester comme des spectateurs, comme des observateurs, voir ce qui allait se produire. Ils n'avaient en fait pas vraiment conscience de ce que cette situation, une manifestation peut donner lieu.
Devant les juges hier, le jeune couple a juré qu'ils n'étaient pas des black blocs, pas des casseurs. Et hier, c'est uniquement en tant que partie civile qu'ils ont été entendus, même si cet été, le procureur avait aussi évoqué la possibilité de les poursuivre, eux aussi, pour violence policière.
Sophie Parmentier. Pas de nouveau procès Kerviel. La justice rejette la requête de l'ancien trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel voulait la révision de son procès pénal. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir fait perdre quasiment 5 milliards d'euros à sa banque en 2008. Les droits des usagers bafoués, selon le défenseur des droits Jacques Toubon. Il pointe du doigt les délais excessifs, de nombreuses pannes informatiques, l'absence d'alternatives humaines ou papier pour obtenir son permis ou sa carte grise. La numérisation des démarches administratives montre leurs limites. Jacques Toubon assure avoir reçu plusieurs milliers de saisines ces derniers mois.
Il est 18h09 sur France Inter. Le divorce ne se fera pas dans la douceur avec le Royaume-Uni.
Car pour l'instant, les ex-époux, futurs ex-époux, ne s'entendent pas sur les conditions de la séparation. Les 28 étaient réunis aujourd'hui encore en sommet à Salzbourg, en Autriche. La Britannique Theresa May a fait ses propositions, un plan de checkers, c'est l'expression, c'est-à-dire le maintien d'une relation commerciale étroite avec l'Union, avec une zone de libre-échange pour les biens, quand les Européens réclament, eux, un filet de sécurité, un backstop, toujours en bon français, pour garantir une frontière, même si elle n'est pas physique, seulement commerciale. Pas d'entente, donc, comme vient de l'expliquer Emmanuel Macron.
Sur ce sujet, il s'agit d'être tout à la fois clair et simple et calme, parce qu'il y a beaucoup de nervosité. Clair et simple pour dire que le gouvernement britannique a proposé un certain nombre d'avancées cet été dans son plan de checkers. C'est une bonne chose et c'est une démarche courageuse de la Première ministre, que je veux ici saluer. Mais de manière très claire, je veux également dire, et ça a fait l'objet d'un consensus ce midi, que les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Et en l'état, le plan Checkers ne saurait être un plan à prendre ou à laisser. À cet égard, nous sommes aujourd'hui à l'heure de vérité.
Emmanuel Macron à Salzbourg, propos recueillis par Quentin Dickinson. Londres et les Européens se donnent une nouvelle chance le mois prochain en sommet à Bruxelles. L'Europe encore, elle perd patience face à Facebook. La commissaire à la consommation demande au réseau social de se conformer rapidement aux règles de protection des données d'ici la fin de l'année. Sinon, Vera Jourova, c'est le nom de cette commissaire, menace le géant américain de sanctions.
Nous voulons que Facebook soit absolument clair envers ses utilisateurs sur la façon dont leur service fonctionne et rapporte de l'argent. Facebook a près de 380 millions d'utilisateurs en Europe et j'attends de Facebook qu'ils prennent plus leurs responsabilités vis-à-vis d'eux. Je ne suis pas naïve au point d'imaginer que tous liront leur contrat, mais je m'attends à ce que beaucoup le fassent et j'attends de Facebook qu'ils soient honnêtes avec ceux qui tentent de comprendre toutes les conséquences de l'utilisation de leurs services. Je ne vous cacherai pas que je deviens plutôt impatiente, car nous dialoguons depuis bientôt 2 ans et je veux vraiment voir non pas des progrès, ce n'est pas assez pour moi, mais des résultats. Si nous ne voyons pas de progrès, des sanctions devront arriver, c'est très clair. Et pour Facebook aussi, car j'ai dit clairement que nous ne pourrons négocier éternellement.
La commissaire européenne à la consommation Vera Jourova au micro de Pierre Benazé à Bruxelles. Apple retire l'application d'Alain Soral de sa plateforme. L'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, se félicite de la décision du groupe américain de ne plus proposer cette appli. Égalité et réconciliation de l'essayiste, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale. Il avait diffusé sur son site 2 dessins animés antisémites. En revanche, l'UEJF regrette que Google propose encore l'application. La Russie réintégrée par l'Agence mondiale antidopage. Décision déroutante et inexplicable, ont réagi les Américains. Elle porte cette décision un coup terrible aux athlètes propres dans le monde, selon l'Agence des États-Unis. Au sein même de l'Agence mondiale, le verdict divise aussi. La vice-présidente de l'AMA, la Norvégienne Linda Elland, regrette que la levée des sanctions contre la Russie, convaincue de dopage institutionnalisé, que cette levée jette une ombre sur la crédibilité du mouvement antidopage.
Et puis, vous voulez terminer avec une histoire d'amour, Amélie.
Ah oui, les deux époux ont 384 ans, mais ça ne les empêche pas de vivre une histoire folle. Ils viennent de revenir à Paris, après une lune de miel à Amsterdam. Il s'agit en fait d'un couple peint par Rembrandt au XVIIe siècle. 2 toiles, achetées il y a 2 ans par le Louvre et par le Rijksmuseum à Amsterdam. Après restauration, les deux amoureux vont être exposés à Paris 3 mois, puis ils partiront 5 ans au Rijksmuseum, reviendront 5 ans au Louvre, voyage. Hein. Et par la suite, des séjours de 8 ans de chaque côté. Mais interdiction, Isabelle Pasquier, interdiction de les séparer.
Martin et Hobson nous sont revenus rajeunis après un lifting en douceur, car il fallait enlever des couches de vernis. Il y en avait parfois 8, 9, voire 10 couches qui posaient un voile jaunâtre sur les toiles. Le résultat est époustouflant. Les noirs des vêtements ont retrouvé leur profondeur. Avec une symphonie de nuances, les dentelles ont leur éclat d'origine et la carnation des visages a repris de la lumière. Alors comment ce délicat lifting s'est-il déroulé? Anne Lepage est restauratrice au Louvre.
On a allégé les 3 couches de vernis les plus récentes de 1956. Donc, on a retrouvé une certaine profondeur des tons. Ensuite, on a découvert que les tableaux étaient en très bon état avec peu de lacunes. Et les lacunes ont été ce qu'on appelle réintégrées avec les premiers tons à base d'aquarelle. Et ensuite, vernissage. Ensuite, reprise de la retouche, mais très peu de retouche dans les visages, dans les fonds. Et ensuite, un vernissage de résine d'amar pulvérisée, végétale. C'était délicat de savoir où s'arrêter quand on fait une intervention sur les vernis et ne pas mettre en danger l'intégrité de la couche colorée originale.
Dans la vraie vie, ce couple a très vite été séparé, car le mari est mort très jeune. Mais grâce à Rembrandt, leur union est éternelle. C'est l'une des plus belles love stories de l'histoire de l'art.
Et vous avez donc jusqu'à la fin de l'année pour aller voir ces amoureux, Martin et Hobson, au Louvre.
Eh ben, écoutez, on ira les voir au Louvre. Amélie Perrier, vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde.
Et là, on va chanter la pop star marocaine Saad Lamjared. Lui, il est privé de diffusion sur les radios de son pays. Il est accusé pour la 3e fois de viol. Bobby Wine, en Ouganda, vous avez parler de lui, hein, eh bien, il vient de nouveau de se faire entendre chez lui après un court exil aux États-Unis. Il est rentré aujourd'hui en Ouganda. Et puis Harper Nilsson, elle n'est pas une star, mais on parle de cette petite Australienne jusque chez nous, car elle a refusé de chanter l'hymne national pour des raisons politiques. Et figurez-vous, elle n'a que 9 ans.
Eh ben, il paraît que certains veulent lui mettre deux paires de claques. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Ce soir, on se préoccupe du sort d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien qui est aujourd'hui dans son 130e jour de grève de la faim. On en parle notamment avec l'écrivaine Marie Desplechin qui a évidemment apporté son soutien, comme d'autres d'ailleurs. Le téléphone sonne, appelez-nous pour nous raconter votre entreprise moderne. J'y mets des guillemets, on parle d'open space, de SharePoint, de murs de post-it ce soir. Cette bonne vieille caricature de l'entreprise ouverte et bienveillante, est-ce qu'elle ne fait pas fuir les salariés au fond? Vos questions ce soir pour la philosophe et spécialiste des ressources humaines Julia de Funès. L'entreprise, est-ce que ça sert vraiment à être heureux ou à trouver du sens dans ce qu'on fait? Vaste question, 01 45 24 7000.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Et vous, Sébastien Léas, vous faites la pluie et le beau temps, et ça, c'est un sacré super pouvoir quand même. Oui, coup de vent ce soir,
j'ai
Sébastien.
J'ai pas vraiment ce pouvoir-là, je ne suis qu'un petit porte-parole. Effectivement, le vent va se renforcer cette nuit sur le nord-ouest, en particulier près de la Manche, avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Ce renforcement est lié au passage d'une perturbation pluvieuse. Cette perturbation va glisser sur le pays dès cette nuit et toute la journée de demain, s'étendant à la mi-journée des Charentes à la Champagne-Ardenne, puis gagnant ensuite jusqu'au Massif central et au quart nord-est avant la fin de journée. À l'arrière de la bande pluvieuse, dans de l'air nettement plus frais, les éclaircies seront de retour par le nord-ouest et le risque d'averse sera faible. Au sud de la Garonne, les grisailles matinales seront nombreuses, mais des éclaircies se dessineront l'après-midi. Ce sera nettement mieux sur le quart sud-est, avec du soleil et de belles éclaircies toute la journée, avec tout de même quelques petites averses vers les Préalpes et sur le sud de la Corse.
Et chute des températures en même temps.
Oui, vous vouliez de la fraîcheur, vous allez être servi avec le passage de cette perturbation. On change clairement de masse d'air. On va perdre parfois 7 à 10 degrés par rapport à cet après-midi. Comme à Brive, où il fait actuellement plus de 30 degrés, alors qu'on attend 23 degrés demain. À Paris, on passera de 26 degrés aujourd'hui à peine 19 degrés demain après-midi. En revanche, en Alsace, en Occitanie, en Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée, la chaleur sera encore d'actualité, avec 27 à 34 degrés, avec par exemple 28 degrés pour Cahors et Célestat, ou encore 31 degrés à Valence, Aubagne et à Sète.
Voilà, mais moi je vais mettre des pulls, je suis contente de mettre des pulls. Voilà, je vous le dis, Sébastien Léas, vous reviendrez quand même tout à l'heure.
Pensez quand même au parapluie demain.